Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux. Littérature et bière glacée.
Grand Flore Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grand Flore Café par Hugues Robert.
Bonsoir, on vous retrouve avec plaisir sur le Grand Flore Café. Comme on essaye de le faire chaque fois que possible, on parle évidemment de littérature, mais on essaye de coller à l'actualité de Grand Contrôle. Et depuis deux jours, c'est le Social Fest, pour encore cinq jours, Social Fest, donc festival grand public ouvert à tous d'économie sociale et solidaire. Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir Jean-François Corti. Jean-François Corti, donc, qui est un médecin humanitaire, qui a été jusqu'à assez récemment notamment le directeur des opérations de Médecins du Monde, qui s'investit beaucoup dans les questions de médecine humanitaire, mais aussi de politique d'accueil, et qui a publié il y a maintenant presque un an aux éditions de l'Atelier, donc les ex-éditions sociales, La France qui accueille. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir, principalement. Donc, Jean-François Corti, peut-être simplement... Quand on lit La France qui accueille, donc dont on va reparler, on a le sentiment qu'il y a un sentiment d'urgence.
Clairement, il y a un sentiment d'urgence total, je dirais, sur des questions de politique migratoire à pouvoir discuter, voire débattre, voire contester. Et puis, l'idée de dire aussi que ce qui se joue pour les migrants aujourd'hui, c'est aussi un projet de société qui concerne les citoyens français et européens. Et qu'on a trop souvent tendance à dissocier notamment des problématiques de lutte contre les inégalités qui mettraient en opposition, on va dire, des citoyens précaires victimes européens versus des citoyens migrants qui viendraient bénéficier des droits sociaux des citoyens européens. Donc il y a une urgence à parler de ce sujet qui est assez... Il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de tensions, on le voit, de violences. Et c'est un sujet qui est au cœur des élections européennes de l'année prochaine. Et chacun y va de sa propre instrumentalisation de cette question-là pour faire passer des messages plus ou moins xénophobes, plus ou moins radicaux. Donc il y a urgence à pouvoir faire le point sur cette réalité. Dans l'ouvrage « La France qui accueille », j'ai d'abord voulu montrer le décalage qui existe entre un discours dominant des politiques français et européens, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui en font, je dirais, le moins possible en matière de mise à l'abri, d'accueil de populations en difficulté. Et on reviendra sur des chiffres et surtout les mythes qui gravitent aussi autour de cette problématique-là. Donc ce décalage entre un discours dominant un dur vis-à-vis de la migration... à une réalité sociale, une réalité d'une société civile en France et en Europe qui veut se mobiliser, qui peut se mobiliser. Il y a vraiment un vivier de solidarité. Il y a des milliers d'initiatives en France d'accueil, que ce soit dans le champ de la santé, dans le champ de la scolarisation, de l'hébergement, de l'aide à l'accès à la nourriture. Et que les États pourraient davantage s'appuyer sur cette réalité de mobilisation pour en faire davantage en matière d'accueil et que potentiellement il ne s'appuie pas assez sur cette réalité. Donc mon livre il a bien sûr une introduction assez critique et on va en parler sur les politiques migratoires européennes et françaises, mais en même temps il ouvre des perspectives pour avancer vers des choses plus positives et notamment en s'appuyant sur une dizaine d'études de cas, de situations d'accueil en milieu rural, en milieu urbain, sous des formes plus ou moins organisées, que ce soit dans des associations à l'échelle nationale ou des petites associations de quartier. Voilà, pour montrer combien les choses en matière d'accueil peuvent se faire, qu'il y a des difficultés, que tout n'est pas simple, mais qu'il y a des manières de pouvoir accueillir concrètement et se rendre utile en matière de solidarité.
On va revenir en effet sur ces initiatives tout à fait concrètes, réelles, enfin, issues du terrain, documentées, qui sont, comme vous l'indiquez, qui sont une dizaine en fait, mais parmi des centaines d'initiatives, et qui prouvent en effet, au-delà d'une certaine propagande, il faut bien le dire, qu'il y a une volonté de la part de personnes en France ou ailleurs en Europe d'être effectivement dans l'accueil et pas du tout dans ce discours qui est seriné à longueur de journée en fait, dans, hélas, de nombreux médias et sur une partie des réseaux sociaux. Les deux choses qui frappent dès qu'on ouvre en fait, la France qui accueille, comme vous le rappeliez, c'est le décalage entre cette perception entretenue, cette perception assourdissante de flot et la réalité des chiffres en fait, qui, en regard à la fois de la population et de la capacité économique des pays d'Europe de l'Ouest, sont objectivement ridicules.
Oui, on voit que dans le discours politique dominant est mis en avant la peur d'invasion, de hordes de migrants quasi sauvages. Alors les chiffres sont là. Ce qu'on sait, c'est que la grande majorité de la migration au global sur notre planète, elle se fait entre les pays du Sud, en Sud-Sud. Et que c'est vraiment les pays du Sud qui absorbent les premiers à proximité des crises, qu'elles soient économiques, climatiques ou militaires ou politiques. C'est vraiment les pays du Sud qui absorbent un maximum de migrants à l'échelle planétaire. Et la migration, finalement, du Sud vers le Nord est très faible. Et l'Europe absorbe moins de, je crois, de 15% de la migration totale à l'échelle planétaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'environ depuis 2015, il y a eu probablement à l'échelle du continent européen, on va dire 2 millions d'arrivées de migrants d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, Proche-Orient. Et que ces 2 millions, si vous les mettez en perspective du nombre total de citoyens européens qui est de 500 millions, vous voyez bien qu'il ne s'est pas ce nombre de personnes qui vont venir déstabiliser nos politiques, nos économies, nos sociétés, et que donc ils sont un nombre infime par rapport à une réalité humaine à l'échelle du continent européen. Ce que l'on a vu en revanche, donc, c'est aussi une idéologie dominante, je dirais, qui n'a pas peur d'assumer d'en faire le moins possible en matière d'accueil des migrants précaires, extra-communautaires. Hein. On pourrait aussi parler des migrants communautaires, c'est-à-dire les Roms notamment, hein, qui payent un lourd tribut aussi dans les violences qui leur sont perpétrées. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une idéologie qui assume d'en faire le moins possible et qui est prête à tout pour, en matière de stratégie, pour arriver à ses fins. Et je m'explique avec quatre niveaux, essentiellement. D'abord, assumer l'instrumentalisation de la violence comme outil de dissuasion dans les politiques migratoires. Les destructions de tentes, d'abris, de sacs de couchage dans les rues de Paris, à l'Alpajol, Porte-la-Chapelle, à Calais, Grande-Synthe, de manière délibérée, c'est des autorités qui assument le fait d'utiliser la violence pour dissuader les migrants de rester sur le territoire. Le deuxième niveau de stratégie pour arriver à ces fins d'idéologie dominante, c'est la criminalisation de l'aide. Hein, on l'a vu, faire comprendre aux citoyens que s'ils sont trop humanistes, trop accueillants, eh bien, ils risquent d'aller en prison ou risquent une amende. Et c'est ce qu'on a vu avec le délit de solidarité, notamment, heureusement, qui a été remis en question dernièrement par le Conseil constitutionnel. Le troisième niveau de stratégie en place, c'est le détricotage du droit d'asile avec la fameuse loi Coulon cette année, hein, où on a vu une obsession à pouvoir mieux gérer les expulsions que plutôt gérer l'accueil. Et le quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle la gestion externalisée de l'asile, c'est-à-dire s'appuyer sur des pays qui sont déjà en grande difficulté économique, politique, pour gérer à distance le problème qu'on ne voudrait pas avoir. Je pense au Niger, je pense au Tchad, je pense aussi à la Libye ou Liban, Turquie, Jordanie. Sachant que dans ces conditions-là aussi, les autorités européennes et les Italiens en premier n'ont pas eu peur de dealer avec des groupes, des mafieux en Libye, par exemple, qui font de la traite d'êtres humains. Et donc, ça posait aucun problème aux politiques européens de dire, voilà, ben, on va s'appuyer sur ces individus, sur ces groupes d'individus qui font la traite d'êtres humains, dans la mesure où, s'ils sont capables de bloquer l'arrivée de migrants, c'est ça qui nous importe le plus. Donc, finalement, qui meurent dans les geôles libyennes, qui meurent noyés en mer, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne veut pas les voir arriver chez nous. On est prêt à tout, y compris en mettant en place des politiques qui accentuent la prise de risque, les prises de risque migratoires, qui augmentent les mortalités et qui font que les personnes qui vont venir pour de bonnes raisons essayer d'être protégées en Europe vont mourir en quantité importante sur le chemin. Donc, il y a cette réalité-là qui existe et qui, au fond, nous font penser qu'on est au bord d'une crise de valeurs. C'est-à-dire que l'Europe, qui a l'un des continents les plus puissants du monde, pourrait augmenter davantage sa capacité d'accueil. Et je dis ça pas forcément d'un point de vue idéologique, même si je crois d'un point de vue idéologique qu'on devrait en faire davantage, d'un point de vue pragmatique, si on s'appuyait davantage sur les initiatives de la société civile, on pourrait qualitativement et quantitativement absorber davantage de monde sur notre territoire. Et ça, c'est pas ce que l'idéologie dominante aujourd'hui, alors c'est difficile de la qualifier, certains diraient nécro-libérale, c'est cette idéologie qui aujourd'hui, moi, m'inquiète et qui fait qu'aujourd'hui, on est au bord d'une crise de valeurs et qu'on peut d'abord davantage parler d'une crise de l'accueil plutôt que d'une crise migratoire en Europe.
Je crois qu'on va revenir effectivement sur les initiatives qui permettent d'illustrer ce que vous indiquez, qui est quand même une note mesurée, mais une note d'optimisme, parce qu'il y a quelque chose qui existe, qui est possible. Mais pour rester et pour finir peut-être sur cette instrumentalisation politique à grande échelle, vous mentionniez en fait deux choses qui sont frappantes, enfin moi qui m'ont beaucoup frappé, c'est effectivement d'une part, de façon officielle, mais certainement pas publique ou spectaculaire, c'est le chantage en fait à l'aide économique qui est pratiqué par les États européens, qui est effectivement une véritable honte, puisqu'on va subordonner l'octroi de tel ou tel prêt, de telle ou telle aide au développement, d'aide d'État à État, à la prise effectivement de mesures conservatoires dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dans des pays du Moyen-Orient, dans des pays effectivement qui sont gangrenés eux-mêmes par des mafias, puisqu'on parlait de la Libye, de façon à maintenir effectivement les choses loin des yeux en fait des citoyens européens, dans un mécanisme qui est quand même assez proche d'une infantilisation, y compris truc, et qui rejoint tout à fait, donc moi j'aime bien cette expression effectivement de nécro-libéralisme, bien entendu, qui rejoint cette espèce de mascarade où on va faire croire en fait à des gens en situation difficile économiquement ou de précarité ou de souffrance en France, et qui ne sont pas du tout des migrants, mais que c'est que leur sort s'améliorera en fait si on contrôle mieux l'immigration, alors que tout, depuis 50 ans, démontre le contraire absolu.
Oui, c'est clair que sur la gestion externalisée de l'asile, les Européens ont été prêts à tout. On les a vus dans les accords de La Valette qui ont été signés il y a 3 ou 4 ans, des négociations avec l'Union africaine. Il s'agissait effectivement d'utiliser la carotte et le bâton en disant l'aide publique au développement, elle sera conditionnée si vous êtes capable de mettre en place des politiques répressives dans vos pays pour les migrants en transit ou pour vos propres concitoyens qui pourraient être tentés par l'immigration. Et donc il y a un côté assez insupportable à cela. Ce qui est clair, c'est que les Européens, et on l'a vu à Calais-Dunkerque, assument de créer des situations qui, du coup, relèvent de quasiment l'action humanitaire. On a levé à près de 6000 personnes à Grande-Synthe et Calais il y a 3-4 ans, dans le fameux camp de la Lande, qui vivent dans les conditions d'insalubrité maximum. Les choses se sont un petit peu améliorées, puis c'est à nouveau tendu aujourd'hui à Calais-Grande-Synthe. Il y a des milliers de personnes qui vivent dans des conditions difficile, et on voit bien que les autorités françaises ou européennes aussi, à l'échelle plus globale, pourraient accueillir dans de meilleures conditions, mais assument politiquement de ne pas le faire. Enfin, on est la cinquième puissance économique mondiale. Moi, j'ai vu, comme d'autres collègues humanitaires, sur des situations de catastrophes naturelles, des coopérations où des États comme la France sont capables de monter des hôpitaux de campagne en 48 heures avec des tentes pour 10 000 personnes. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne veut pas le faire pour envoyer un message clair et donc assumer que des gens soient en danger, exposés à la vie dehors. Et donc, On passe du registre de ce qui aurait dû simplement être une tension sanitaire et sociale, parce que c'est pas simple effectivement d'accueillir des gens. Il faut les mettre à l'abri, il faut les nourrir, il faut les aider à connaître leurs droits pour les ouvrir. Mais là, on est passé dans le registre un peu politique de l'action humanitaire. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs humanitaires, des ONG internationales viennent appuyer des associations locales qui souffrent d'une action qui sont dures, qui sont étalées dans le temps, des associations comme Salam, la Belle Étoile, je pense à Calais Grande Sainte, voilà, travaillent depuis des années et ne voient jamais les choses s'arrêter. Et donc, elles ne sont pas forcément aidées par l'État. Et d'ailleurs, on a vu aussi des grosses associations humanitaires comme MSF ou Médecins du Monde développer des programmes quasi d'urgence de la même nature que ceux qu'on peut développer à l'international dans des zones de conflit. On a fait ça à Calais et Grande Sainte. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de fait une instrumentalisation de cette question migratoire. En fait, la question du migrant, c'est une question politique totale, quoi. Politique, philosophique, sociale, et que chacun y va de son instrumentalisation possible. Et aujourd'hui, il y a les eurosceptiques ou ceux qui veulent faire péter le projet européen. Je pense aux Italiens, il y a d'autres aussi, d'autres aujourd'hui aussi, qui n'ont pas peur de jouer de la tension sur la question migratoire inter-européenne, notamment en illustrant le fait qu'il y a très peu de solidarité inter-européenne sur ces questions-là. Donc sont prêts à faire échouer le projet européen sur la question migratoire. On voit aussi que d'autres acteurs utilisent la question migratoire pour atténuer les libertés individuelles et collectives des citoyens européens eux-mêmes. Quand on parle du délit de solidarité, quand on parle des lois en Hongrie qui empêchent les associations de Hongrois d'aider les migrants, aujourd'hui c'est en Croatie, c'est bien des lois qui atténue les libertés des citoyens européens eux-mêmes, c'est pas des citoyens, des migrants. Et le troisième niveau d'instrumentalisation, parmi d'autres, c'est aussi, je pense, et ça c'est un sujet fondamental, ceux qui utilisent les questions migratoires pour masquer les insuffisances de politique de lutte contre les inégalités et la pauvreté. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, en France, on a 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Je parle des citoyens français. C'est 4 millions de personnes qui vivent dans des logements insalubres ou qui vivent dehors. C'est 30% de Français qui retardent leurs soins ou qui ne se soignent pas, notamment pour des raisons financières et aussi parce que les filets sociaux de prise en charge se sont progressivement dégradés avec une sécurité sociale qui rembourse de moins en moins et qui laisse la place à une privatisation du champ de la santé. Et dans le même temps, vous avez un discours qui vous explique que, c'est parce qu'on ne sauvera pas des migrants en mer Méditerranée que le sort des Français précaires sera meilleur. Au fond, on sait qu'aujourd'hui, quand un État durcit sa politique vis-à-vis des migrants, c'est un État qui va aussi durcir sa politique vis-à-vis de ses concitoyens les plus précaires et qui ne fera pas de la lutte contre les inégalités une priorité. Et moi, je défends l'idée qu'aujourd'hui, parler des migrants, c'est en fait parler de la problématique de la lutte contre les inégalités pour tous. Et que, voilà, je pense que beaucoup d'acteurs ont intérêt à instrumentaliser le migrant comme bouc émissaire pour masquer les insuffisances de politique de lutte contre la pauvreté pour les Français et les citoyens européens. Et que donc, voilà, on a une idéologie dominante qui maltraite les migrants, qui maltraite les précaires européens, français, qui détruit la planète aussi. On pourra revenir sur tout un tas de mécaniques de prédation économique aussi. Et que, voilà, dans ces conditions, il faut être vigilant. Moi, je n'ai jamais dit que l'État, par exemple, français, ne faisait rien en matière d'accueil. Il y a des subventions qui sont allouées à des associations, il y a des personnes qui sont mises à l'abri, il y a aujourd'hui un préfet interministériel qui essaie de coordonner un peu, d'améliorer le lien entre les acteurs. On en reviendra, le fameux triptyque État, collectivité locale, association, société civile. Mais l'État pourrait en faire plus. Et on l'a vu sur les questions sanitaires à Calais et Dunkerque, il y a quelques années. Un centre s'était ouvert pour 2000 personnes alors qu'il y avait 6000 personnes autour qui dormaient dehors, qui cherchaient à manger. Et quand on est... Je pense que c'est d'autant plus grave de produire une aide qui ne correspond pas à la réalité des besoins quand on connaît les solutions et quand on sait que c'est politiquement assumé de mettre des gens dans la précarité. Donc il y a cette réalité-là et encore une fois, il faut la confronter à beaucoup d'initiatives de la société civile et quand on a fait ce constat d'une idéologie dominante qui existe, il y a malgré tout tout un faisceau d'acteurs qui se mobilisent, qui veulent faire de notre projet de société, notamment la solidarité dans l'altérité, une réalité sociale, que ce soit pour les migrants, pour les Français précaires, les citoyens européens précaires. et qu'elle est là et qu'il faut l'apporter, cette société qui a envie d'en faire plus.
Non, mais je crois on va se diriger vers une petite pause musicale pour un artiste qui vous est cher. Mais avant ça, je voulais juste simplement rappeler, et c'est ce que vous rappelez et que la France qui accueille rappelle avec force, c'est qu'il y a effectivement un travail idéologique et politique formidable, en fait, qui avance plus ou moins masqué, mais qui fait tout pour que des chiffres aussi massifs que 4 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France, c'est un véritable...
C'est même 7-8 millions, hein.
Ouais. Ouais, ouais. 4 sont les chiffres les plus conservateurs. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment donc un chiffre colossal et que on se garde bien de le mettre en rapport du fait que d'aider, d'accueillir davantage ou mieux quelques dizaines de milliers, dans le cas de la France, on n'est même pas dans les centaines de milliers, on parle de dizaines de milliers de migrants, créerait une pression en fait sur cette pauvreté. Ce qui est évidemment un mensonge éhonté, enfin, et quelque chose qui ne tient pas debout et qui renvoie bien effectivement à d'autres choses, à un ordre économique et social qui ne s'embarrasse pas de trucs et donc qui rentre dans une espèce d'économie de la distraction, enfin au sens divertissement d'un côté et puis distraction comme dans distraire l'attention en fait, hein, genre. Et là effectivement il y a instrumentalisation, c'est 10, 15, 20 000 personnes qui ne sont pas accueillies, qu'on va laisser effectivement mourir sur le trajet, sont une façon de pour l'État de ne pas affronter le fait qu'il laisse massivement des gens dans la pauvreté alors qu'il a les moyens de faire quelque chose.
Oui, on est d'accord.
Et donc on va écouter...
C'est Dias, c'est un artiste du Niger et du Burkina, un gourmandché, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est aussi très engagé dans son pays pour faire la promotion de la culture, et je vous propose de l'écouter. Là.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Voilà, de l'engagement, il y en a chez les artistes, il y en a chez les auteurs, on va en dire un mot tout à l'heure. Il y en a aussi bien sur les terres d'origine, en fait, de ces migrations internationales qui semblent préoccuper, en fait, nos responsables politiques et une partie de l'opinion publique bien au-delà, en fait, de la réalité, c'est ce qu'on disait à l'instant. De l'engagement, il y en a donc aussi dans les pays d'accueil, d'accueil trop faible, mais où pourtant la volonté est là. Et c'est ce que montre de façon très précise et très documentée et très poignante également la France qui accueille, donc l'ouvrage de Jean-François Corti, qui nous présente un certain nombre d'initiatives, alors de extrêmement différentes les unes des autres, mais qui sont effectivement autour de reconquérir cette capacité d'accueil en fait, que l'on semble vouloir abandonner ou faire croire que finalement elle n'a jamais existé. Est-ce que vous voulez nous parler de certaines de ces initiatives, Jean-François?
Ah oui, il y en a une dizaine, hein, et comme je l'évoquais tout à l'heure, et vous l'avez rappelé, en milieu rural, en milieu urbain, plus ou moins organisé sous forme d'association ou même d'initiatives collectives ou individuelles. J'ai voulu montrer combien, et ça d'autres des rapports officiels l'ont montré, combien là aussi la migration, quand elle est bien gérée, est source de plus-value pour les sociétés qui accueillent dans de bonnes conditions, des plus-values économiques, sociales, politiques et autres, même si ça a un coût dans les premières années, à long terme, c'est un investissement, en fait. Je voulais montrer aussi combien, à travers la question migratoire, se jouait aussi l'évolution de nos propres représentations au sein même de nos entre citoyens. J'ai pris l'exemple de Malik, le premier article, qui habite à Sarcelles, qui est un migrant de deuxième ou troisième génération, et qui est livreur dans Paris, et qui arrive un soir en 2014-2015 à Port-de-la-Chapelle et qui tombe sur des familles en situation de précarité maximum, des femmes, des enfants dehors la rue, et puis il se dit voilà, mais ça me touche, quoi, j'ai envie de faire quelque chose, c'est pas possible, je vais me mobiliser. Et donc il rentre dans son quartier. Et puis, il a une idée géniale, il mobilise sa famille, ses amis pour faire des collectes de vêtements, de nourriture, il commence à préparer des repas et pour ensuite charger les coffres des voitures et aller distribuer ça non sans difficulté dans les rues de Paris. Mais il a l'idée géniale d'utiliser un support de réseau social qui est le Facebook et le grand défi Facebook. Le grand défi Facebook, en fait, à la base, c'est vous pouvez faire tout et n'importe quoi, vous vous filmez en train de boire une bouteille de whisky en 3 minutes et puis en disant allez-y, faites mieux que moi. Donc il peut y avoir ce genre de pari débile. Mais il y a aussi Malik qui dit voilà, moi je vais filmer les actions. Et puis je vais envoyer un défi à un autre quartier en disant allez-y, faites mieux que nous en matière de solidarité et d'action de solidarité. Et donc il a créé le grand défi Facebook. Et aujourd'hui c'est un réseau international, c'est-à-dire que Malik il va en Allemagne, en Belgique, au Canada, et son initiative a été reprise dans plusieurs villes. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous parlez avec lui, avec ses amis ou sa famille, il vous explique combien ils sont fiers de pouvoir montrer que ce qui se passe dans les quartiers, c'est autre chose que simplement des règlements de compte entre petits caïds, ou c'est autre chose que des annonces politiques opportunistes. Il y a une réalité sociale, une solidarité qui existe. Et donc, au travers de la question de l'aide aux migrants, se jouent aussi des représentations sur nos propres quartiers, sur nos propres concitoyens. Et ça, c'est vraiment une illustration caricaturale de ce que peut amener la question migratoire en matière d'action qui fédère, finalement qui améliore le lien social, quoi, hein, et qui travaille sur le vivre ensemble. Donc, pour moi, c'était on va dire une étude de cas caricaturale. Et puis après, évidemment, dans l'ouvrage, au travers des différentes études de cas, j'ai traité quelques sujets transversaux, des invariants que sont la question du délit de solidarité, on l'a évoqué, mais aussi le fait de pointer du doigt combien l'État pouvait être dans l'illégalité aussi. Hein. On l'a vu dans le sud, en région PACA, combien de fois, plusieurs reprises, les précédents préfets ont été pointés du doigt pour ne pas respecter la loi, notamment en demandant aux forces de l'ordre de renvoyer des migrants, notamment mineurs non accompagnés, en Italie, alors même que c'est mineurs n'ont pas pu faire les démarches nécessaires pour pouvoir connaître et défendre leurs droits, notamment en matière de protection et d'asile. Donc on l'a vu aussi au travers différents référés liberté que des associations ont généré il y a quelques années sur le fait que sur certains terrains à Calais et Dunkerque, l'État devait au moins mettre de l'eau, des latrines et faciliter le travail des acteurs humanitaires. Et la justice a reconnu ces demandes d'associations. Donc on voit bien qu'il y a aussi un décalage entre droit théorique et droit appliqué et qu'on peut se renvoyer la balle entre d'un côté l'État qui dit à certains acteurs de la société civile comme Cédric Héroux, attention, vous faites n'importe quoi et on va vous mettre en prison parce que vous êtes des gens, et qui dans le même temps ne respectent pas la loi, notamment sur des éléments fondamentaux que sont les engagements sur les conventions internationales des droits de l'enfant. Donc j'ai essayé de traiter aussi ces questions-là.
Je trouve que c'est une des choses qui frappe dans La France qui accueille, effectivement, dans ces chapitres-là, mais aussi sur les chapitres sur les mères, par exemple, et on en a vu une illustration cette fois pas en France, mais en Italie tout récemment. Il y a vraiment, en effet, comme vous le soulignez, un travail de durcissement de la loi qui est assez subreptice, en fait, d'une part, dans l'application qui en est faite, dans le fait de modifier par des décrets, en fait, l'essence d'origine de certaines lois, dans certains cas, de faire passer des lois. Et puis, il y a un détournement de la loi où on se retrouve dans cette situation paradoxale que vous décrivez, c'est que c'est des associations, des citoyens, des ONG qui doivent rappeler l'État à la loi, qui n'est pas en train d'appliquer, qui est au contraire en train de détourner au profit d'une certaine politique qui ne dit pas complètement son nom, mais qui est bien là. Enfin.
Absolument. Donc il y a une vigilance de la société civile à avoir, et on est dans le jeu démocratique, au fond, hein, Voilà. Et moi, je pense comme d'autres, comme Michel Agier, par exemple, qui est aussi un chercheur à l'École des études en sciences sociales, qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Je suis d'accord avec lui quand il dit que, voilà, dans une démocratie comme la nôtre, l'État-providence a des choses à faire, et c'est très bien, c'est normal. Mais la société civile, elle a aussi à prendre des initiatives sans attendre que l'État lui explique ce qu'il faut faire. Dans le sujet qu'on évoque, le problème, c'est que dans certaines situations, l'État n'a pas toujours été aidant, voire même à bloquer les choses. Donc il y a ce jeu de démocratie qui se joue, et la société civile doit jouer son rôle de veille vis-à-vis de certains débordements. Dans d'autres études que j'ai reprises, dans d'autres études de cas, il y a évidemment plusieurs choses. D'abord, montrer que certaines situations, notamment l'accueil à domicile, c'est faisable. Moi-même, souvent, quand j'essaie de réfléchir sur comment accueillir un migrant chez moi, qu'est-ce que ça pose comme question de sécurité, potentiellement, de partage de la langue, de comment ça s'organise au quotidien, comment on déjeune ensemble ou pas, comment la vie se fait. Voilà, et il y a une association, mais d'autres aussi initiatives ont été faites, une association qui s'appelle Singa, qui a un volet de sa mission sociale qui s'appelle Comme à la maison, le programme Calme, Comme à la maison, qui met en lien des familles d'accueil avec des migrants qui sont dans un processus de demande de droit. Et on le sait aujourd'hui, même les personnes qui sont en demande d'asile, qui ont un récépissé, qui n'ont pas encore la réponse, elles devraient être dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, mais que ces CADA, ces centres d'accueil de demandeurs d'asile, sont saturés.
Complètement voilà. Saturés. Ouais.
Cette association met en lien des familles avec des migrants, et dans 99% des cas, ça marche hyper bien. Les gens sont contents. Il y a une interaction. Les familles d'accueil sont émues et les migrants évidemment émus et reconnaissants. Donc ça marche. Donc je voulais montrer aussi au travers d'un jeune couple que il y a un pas à franchir et que quand on l'a franchi, on se rend compte que finalement c'était pas si compliqué que ça. Et puis aussi un point qui était important pour moi, c'est je faisais référence à Émilie Loiseau, qui est une artiste très engagée, une chanteuse, compositrice, qui aussi m'a accompagné sur certaines initiatives de promotion de l'ouvrage, et qui elle aussi a eu des initiatives, notamment sur une journée qui s'appelait Fais ton bateau au moment de la journée des migrations. Et parce qu'on a souvent discuté sur comment, quand on n'est pas travailleur social, quand on n'est pas médecin, quand on n'est pas enseignant, comment on peut se rendre utile parce qu'on a envie de faire quelque chose concrètement. Quand, voilà. Et donc, tout le monde peut s'engager à un moment donné. Peut-être on y reviendra. Sur la, on peut aller voir l'association de quartier. Il y a différents moyens de pouvoir se rendre utile. Et même les artistes peuvent se rendre utiles, non seulement comme pour Émilie Loiseau, en usant de sa notoriété pour essayer de sensibiliser son public sur des questions notamment d'inégalité sociale, de migration. Et puis, c'est aussi, quand on parle de la culture, c'est de rappeler qu'aujourd'hui, de manière plus générale, la question migratoire, elle est souvent traitée sous l'angle très verticale de l'approche sécuritaire, avec d'ailleurs, on le voit bien, le ministère de l'Intérieur qui est en première ligne, Premier ministre, et avec aujourd'hui un préfet, un interministériel qui coordonne un petit peu les différents ministères. Mais on aimerait entendre davantage le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation prendre un peu les devants, parce que la question migratoire, c'est une question sociale totale qui implique des questions, certes, de sécurité, mais de scolarisation, d'accès à la santé et à la culture.
Il est clair qu'effectivement, sur les questions de scolarisation et même sur la question d'apprentissage du français langue étrangère, par exemple, qui sont deux sujets importants, évidemment, y compris dans le cadre d'une migration parfaitement légale, c'est surprenant de voir à quel point c'est un silence assourdissant de la part du ministère de l'Éducation nationale.
Qu'ils sont verrouillés, parce que c'est l'Intérieur ou le Premier ministre qui ont la main sur ça et personne n'a donné son avis. Donc, il y a des associations comme RESF, notamment, et d'autres qui travaillent sur les questions de l'accès à l'éducation, qui font un travail formidable, et des artistes aussi qui essaient de un petit peu d'aller challenger leur ministère de tutelle. Et puis il y a aussi, voilà, j'évoquais tout à l'heure le triptyque fondamental État, collectivité locale et citoyens, on va dire associations, collectivité locale. Il y a des maires qui prennent énormément de risques qu'il faut valoriser. Je pense à Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, mais il y a beaucoup, des dizaines de maires de petites communes qui essayent d'amener leurs concitoyens dans des situations de pouvoir aussi accueillir des familles. Alors ça peut être une famille, deux familles, ça dépend aussi de la capacité, de la taille du village. Et il y a un effort travail pédagogique qui est fait et on se rend compte que souvent, et plusieurs études l'ont montré, d'abord, ça peut, dans certains cas, restimuler une économie locale, ce qui était le cas à Riace, dans Calabre, en Italie, même si aujourd'hui le maire s'est fait en difficulté à cause du nouveau gouvernement italien. C'est des projets qui naissent et qui mettent en lien les villageois eux-mêmes, qui créent une certaine dynamique. Et donc, voilà, il faut aider ces maires. Et on se rend compte aussi que certains habitants de villes qui étaient sceptiques au départ se retournent leur veste, se rendent compte que les choses se passent bien et que l'image du migrant qu'on a essayé de leur inculquer n'est pas celle de la réalité, c'est-à-dire de gens normaux qui ne veulent pas être des parasites de la société, qui veulent s'investir, qui veulent travailler et qui veulent surtout être en sécurité. Donc il faut continuer à valoriser ces maires et espérer que l'État accentue l'accompagnement, l'amélioration justement de cette articulation entre État, collectivité locale et association.
On mentionnait effectivement l'engagement des artistes. On évoquait au premier chef les musiciens ou les auteurs-compositeurs-interprètes. Je voulais dire un mot, parce qu'on est quand même au Grand Flore Café sur des écrivains également. Il y a beaucoup d'écrivains depuis quelques années qui effectivement sont, alors qu'ils soient français d'origine ou qu'ils soient eux-mêmes, pour certains, d'ex-migrants ou des migrants, qui se sont également emparés par le biais de la fiction, du récit qui peut parfois aller jusqu'au fantastique ou à la science-fiction, même dans certains cas, mais aussi bien des questions qui ont trait au départ, à la décision des migrations et au voyage, avec ses risques et ses incertitudes. Et on peut penser à des gens comme Laurent Klotzer, qui est suisse, mais qui a écrit un très beau livre récemment qui s'appelle Issel et Elohim, et qui parle effectivement des camps d'accueil de réfugiés externalisés hors de la zone européenne et confiés effectivement à un mélange subtil d'organisations humanitaires et d'organisations policières. Sacha Drupani avait traité de ces questions-là il y a quelques années. Andrei Ivanov, Velibor Kolitch, son journal d'exil, en fait, qui là, lui, s'intéresse à un deuxième aspect qui est plutôt celui de justement de l'accueil et de la difficulté en fait qu'il peut y avoir une fois qu'on est sur une terre d'asile. Et là, j'essaie de faire sentir des guillemets dans ma voix quand on est confronté effectivement à cette difficulté juridique, administrative, technique de faire valoir ses droits et simplement l'espèce de minimum d'humanité qu'on attend et qui se retrouve battu en brèche par un ensemble de formalités légales, mais pas seulement légales, qui sont aussi administratives, judiciaires, techniques et qui truc. Et donc je voulais me le mentionner parce que il y a une jeune troupe de théâtre qui s'appelle Les Antichés qui a créé donc il y a maintenant 2 ans une pièce qui s'appelle Provisoire et qui sera rejouée en février. Qui, en lien avec des bénévoles en fait, et des employés de France Terre d'Asile, a fait un magnifique travail sur la confrontation quotidienne en fait, des employés donc, d'organisations non gouvernementales, mais à qui l'État délègue en fait, son travail de filtrage des réfugiés, des demandes d'asile, etc., dans un maquis effectivement, des aides sociales, comme vous le mentionnez tout à l'heure, qui est de toute façon en réduction, mais qui ne s'est pas simplifié, bien au contraire, et de voir effectivement l'épuisement et le mélange entre dégoût, fatigue et cynisme en fait, qui peut être à l'œuvre, y compris chez des gens au départ qui sont d'une grande bienveillance, c'est un travail vraiment saisissant. On va en écouter un très bref extrait pour se faire une idée justement de la manière concrète en fait, par la fiction dont on se heurte aussi à ces difficultés-là.
Il y a des gens qui sont dans la merde, ok ?
David, t'inquiète pas, la couche est mizane. Chouette, la paquet noix à l'eau, les mizanes.
Fais un effort, s'il te plaît.
Là, je suis fatiguée, Amir. Femme,
je sais,
je suis fatiguée.
Je sais,
non.
Je sais.
Et je peux rien faire pour eux. Je peux rien faire. Si. La seule chose que je peux leur dire, c'est. Revenez demain, on n'a pas de place. C'est de leur dire qu'ils sont dans la merde et qu'ils vont y rester. Tous les jours, dois leur répondre ça.
Voilà, on va se diriger vers la fin de notre émission. Donc, on va mentionner quand même, avant des auteurs et pas les moindres, hein, Denis Le Maçon, Mathias Sénard, Vladimir Orchenkov également, donc, ont écrit des ouvrages magnifiques hein, sur cette question de la migration et de l'accueil. Et que ces ouvrages, bien entendu, sont en vente au Concept Store de Grande Contrôle et à la librairie Caribbe, à 2 pas d'ici. Jean-François Corti, dans La France qui accueille, il y a aussi donc un message, disons-le, un message politique qui a trait effectivement à l'engagement citoyen et aux formes concrètes. On parlait de l'engagement individuel, associatif, qui permet d'apporter un soutien effectivement en termes d'accueil, mais il y a effectivement peut-être quelque chose à faire du côté politique.
Oui, on voit bien que la question la migration et le sujet du migrant est une question éminemment politique. Je citerai Alexis Nouss, qui est professeur de littérature comparée à Marseille, et qui faisait un peu le comparatif entre ce que Hegel et Marx disaient du prolétariat, c'est-à-dire le prolétaire, une figure politique qui amène derrière une construction programmatique politique totale. Aujourd'hui, le migrant, de notre point de vue, c'est une porte d'entrée pour pouvoir parler des questions d'inégalité sociale pour tous, des questions sur l'écologie, des questions sur la gouvernance et la démocratie, notamment en Europe, et bien sûr des questions sur les politiques migratoires et tout le rapport qu'on peut avoir avec les pays en voie de développement. Donc, moi, après 20 ans d'engagement dans l'humanitaire et je continue à être dans les associations, je vois bien aussi que le plaidoyer, tout ce qui est les prises de position dans le champ du politique, elles sont nécessaires, importantes, qu'il faut que les assos continuent, elles vont le faire évidemment, mais que peut-être il y a une réflexion à avoir sur comment aussi, dans la mesure où les acteurs et les élus ne répondent pas forcément aux plaidoyers mis en avant, comment on pourrait faire davantage bouger les choses. Et l'une des solutions, c'est d'aller occuper les espaces politiques où les décisions se prennent. Je pense en France, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et aux élections et à l'échelle européenne, bien sûr au Parlement européen, à Bruxelles, et puis ce qui se passe aussi à Strasbourg. Donc voilà, plusieurs réfléchissent à comment franchir peut-être un peu le pas. On a vu Raphaël Glucksmann annoncer le lancement d'un mouvement qui est un parti politique qui a pour vocation de fédérer les gauches et pas forcément de faire une liste. Et nous réfléchissons, en tout cas, avec des personnes comme Alexis Nouss ou des anthropologues comme Véronique Grappe ou des sociologues comme Philippe Bataille, avec des personnes comme Edgar Morin ou Alain Touraine, a aussi potentiellement lancé un mouvement avec l'objectif affiché de présenter une liste aux européennes, mouvement de société civile en rupture avec les partis politiques classiques, c'est-à-dire en essayant de créer un mode de gouvernance un peu nouveau. On va probablement lancer ça la semaine prochaine. Voilà, je trouve que c'est bien qu'il y ait ces initiatives-là, parce que ça montre que la société civile se cherche, que bien sûr les acteurs politiques ils existent, les partis classiques, mais qu'il y a une certaine défiance aussi, et qu'il faut pouvoir être dans des réinventions de participation de société civile aux questions politiques. La question du migrant, elle nous pousse à nous interroger sur notre propre sujet de société, notre propre projet de vie, et c'est un moment important dans notre projet social.
Voilà, donc questionner effectivement nos propres modes de vie et chercher à mieux vivre et à mieux vivre ensemble à partir de ce déclencheur, de ce détonateur que peut être la dite question migratoire, c'est effectivement une des choses qui irrigue le Social Fest en ce moment et dans les jours qui viennent à Ground Control. C'est aussi quelque chose, vous le savez, qui tient particulièrement à cœur à Ground Control dans son ensemble, et ça depuis son origine. Donc surtout, restez attentifs, suivez ces initiatives citoyennes. Et puis, donc on va remercier bien entendu Jean-François Corti et je vous encourage très vivement donc à lire La France qui accueille aux éditions de l'Atelier, qui est vraiment un ouvrage qui est sans phare et brutal dans certaines de ses manifestations et qui en même temps envoie une formidable bouffée en fait d'espoir citoyen, d'espoir combatif, qui est ce dont on a besoin.
Merci. Merci. Merci beaucoup.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Ouvrez les frontières,
laissez-nous passer.
Ouvrez
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.